Le Vision Pro est là toute la journée de jeudi. Un compte à rebours sur Apple.com a égrené les secondes qui nous séparaient de ce 2 février 2024. Déjà plus de 6 millions de vues pour l'unboxing signé Marques Brownlee. Maintenant, place au test, ceux des premiers acheteurs avec 600 applis natives dispo, dont l'application Decathlon pour le Vision Pro. Vous allez tout savoir en avant-première avec le nouveau membre de la Team iWeek, Baptiste Dajon, développeur et évangéliste des technos Apple chez Decathlon. Ça tombe très très bien.
On collabore avec Apple depuis 2018, depuis mon arrivée chez Decathlon, sur les applis iOS internes et grand public. Du coup, j'ai gardé cette relation. C'est grâce à ça qu'on a eu l'opportunité d'aller essayer le device dans un labs. Et du coup, tout part de là. Et on a un peu relié tous les points ensemble. On s'est dit, tiens, les US, c'est intéressant. Le Vision Pro, c'est ultra intéressant comme nouvelle plateforme. On va essayer de mélanger tout ça et d'en avoir le meilleur qu'on puisse faire dans le temps imparti avant la sortie, dont on ignorait la date, du coup. Donc, ça s'est bien goupillé.
50€ par mois pour la nouvelle Freebox Ultra qui propose du 8 gigabits par seconde symétrique et le Wi-Fi 7.
Il y a ce nouveau canal qui va permettre de faire des tas de choses parce que c'est un canal qui est peu occupé. Donc ça permettra de connecter plus d'appareils et de les connecter à une bonne vitesse. Parce que si on n'a pas un bon fond de panier, comme disent les fabricants de hardware, on peut promettre les débits qu'on veut, mais dès qu'il y aura 3 trucs connectés, on va avoir le débit qui va être divisé. Donc ce qui est important dans le Wi-Fi 7, c'est qu'on va avoir de la marge pour que si on a plusieurs appareils Wi-Fi 7, ils puissent s'exprimer à pleine vitesse.
Free, premier opérateur à intégrer la nouvelle norme publiée il y a à peine 3 semaines. Pour 10€ de plus, vous aurez Netflix, Prime Video et Canal Plus Live, ainsi que les 280 chaînes du bouquet Oki. Interview à suivre avec Xavier Niel, le PDG de Free.
Est-ce que ça sert toujours d'avoir un ordinateur plus puissant ? Bah ouais, quand même, à la fin, ça finit toujours par servir parce qu'on a des applications qui en nécessitent. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est d'être en avance de phase et d'être capable d'intégrer plein de services, des innovations technologiques en avance de phase.
iWeek, la semaine Apple, épisode 171. Je suis Benjamin Vincent, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes, allez, on va dire la vérité, on est le 1er février 2024, il est 18h à Paris, mais nous sommes déjà le 2 février en Australie, à Sydney, où il est 4h du matin, autrement dit H-5, puisque les Apple Store ouvrent à 9h, H-5 avant la première disponibilité au monde du Vision Pro. Dans 5 heures, les premiers clients pourront ressortir des Apple Store Bondi et Chermside avec leur grosse boîte en carton à près de 4 000$. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. On va évidemment parler de cette sortie historique, peut-être sans doute, du Vision Pro. N'est-ce pas, Ellie ? Salut !
Mais oui, bonsoir la team, bonsoir à tous. Bah, je suis absolument ravi, en plus que tu aies pris l'analogie de l'Australie, parce que ça me rappelle la commande de la Model 3, la première commande européenne où les gens s'étaient battus pour avoir une Model 3. Et j'avais réussi à être dans les 5 premiers en commandant la voiture à travers le portail australien de Tesla.
Oui, aïe, aïe, aïe.
Donc, tu vois.
Bien joué. Bon, en tout cas, on vit des heures sans doute historiques, n'est-ce pas, Baptiste ? Baptiste Dajon, salut.
Salut tout le monde. Il reste que quelques heures, là on va avoir les premières tours, les premiers téléchargements par les utilisateurs finaux, donc hâte de voir tout ça.
Ouais, toi tu vis une journée incroyable parce que l'annonce de cette application Decathlon, elle est tombée il y a quelques minutes, nous en parlais en off depuis plusieurs jours, mais tu avais le droit de rien dire. Là, ça y est, le feu vert, il est tombé officiellement. Donc, on va bénéficier de ta connaissance du projet. Tu vas pouvoir nous raconter cette appli, quelle est son idée, quel est l'objectif, de quelle manière est-ce que vous essayez de tirer profit du Vision Pro et de ce nouvel environnement pour sans doute donner des informations particulières à vos clients. Je le disais depuis que tu nous as rejoint, tu es développeur toi sur iPhone depuis le tout début. Mm-hmm. Et c'est vrai que tu t'intéresses de très près au Vision Pro parce que tu es évangéliste des technos Apple chez Decathlon. Cette journée, alors comment tu la vis ?
C'est compliqué, j'ai l'impression de recevoir une notification LinkedIn ou Twitter par seconde, mais je plains les influenceurs en fait. J'aimerais pas être dans leur peau tous les jours parce que ça doit être vraiment... En fait, faut juste couper les notifications, quoi, c'est ça. Mais là, c'est qu'une journée, donc ça va aller.
C'est ça. Alors, on va rappeler quand même la particularité du projet de Decathlon. C'est une sortie purement américaine pour le Vision Pro.
Oui, Decathlon, et du coup, Decathlon, on n'est pas très présent aux US. Mmh. Ouais. Donc, Decathlon aimerait être aux US depuis un bon moment. On a déjà fait des tentatives d'ouverture de magasins, etc. Mais le modèle Decathlon doit un peu s'américaniser pour fonctionner là-bas. Donc, on a appris des choses de nos échecs et là, on relance avec une nouvelle stratégie. Et du coup, quand j'ai découvert l'opportunité du Vision Pro l'année dernière, suite au premier labs que j'avais fait à Londres pour essayer le Vision Pro et du coup découvrir toutes les possibilités de ce device, c'est là qu'on a commencé à réfléchir à une expérience purement US et pouvoir gagner en visibilité là-bas grâce à ce device.
Sans vouloir te tisser trop de louanges, mais donc l'idée, c'est quand même toi qui l'as suggéré après l'avoir testé.
Alors oui, on a eu l'occasion, le partenariat entre Apple et Decathlon, on peut pas vraiment parler de partenariat, mais parce que Apple aime pas trop ça, mais on collabore avec Apple depuis 2018, depuis mon arrivée chez Decathlon, sur les applis iOS internes et grand public. Du coup, j'ai gardé cette relation. C'est grâce à ça qu'on a eu l'opportunité d'aller essayer le device dans un labs. Et du coup, tout part de là. Et on a un peu relié tous les points ensemble. On s'est dit, tiens, les US, c'est intéressant. Le Vision Pro, c'est ultra intéressant comme nouvelle plateforme. On va essayer de mélanger tout ça et d'en avoir le meilleur qu'on puisse faire dans le temps imparti avant la sortie dont on ignorait la date, du coup. Donc voilà, oui. Ça s'est bien goupillé.
Alors, à l'instant où on se parle, je suis sur le site apple.com, le site américain. Apple annonce une disponibilité dans 19h41min25s. Ça, c'est pour les US, parce que, comme je le disais, en Australie, dans 5 heures, les Apple Store ouvrent en ce 2 février. Donc là, on y est presque. Ce 1er février, qui est donc la veille du jour J, Apple a communiqué notamment sur le nombre d'apps natives qui seront dispo donc dans quelques heures pour le lancement. On était toujours sur un chiffre de 250, là on est passé à 600, donc plutôt une bonne surprise peut-être pour vous deux. Ellie, t'en penses quoi?
Écoute, moi je m'attendais pas à autant d'applis, j'ai pas vu la liste complète, mais c'est pas mal, parce que là, je pense que c'est des applis qu'Apple met en valeur. Après, il y a toutes les applis qu'on va découvrir le jour où on pourra, qui fonctionnent sur iPad et du coup implicitement sur le Vision Pro, parce qu'on peut les télécharger, même si elles n'ont pas toutes les caractéristiques. Et là, ça en fera un certain nombre. Mais là, on parle de 600 applis tirant parti du Vision Pro. Et ça, c'est quand même bien supérieur, je pense, à ce que tout le monde pensait.
Eh oui. Alors, Decathlon est cité dans le communiqué d'Apple, Baptiste?
Oui, ça, c'était une belle surprise.
C'est quand même chouette, hein?
Oui, c'était chouette. Justement, j'ai appris ça dans la voiture tout à l'heure en venant du boulot. C'est une très belle nouvelle et un bon sentiment d'accomplissement quand j'ai vu ça.
Alors, la phrase, c'est une phrase, ça dit Decathlon helps shoppers view, choose and buy products and see them in 3D in their personal environment. Donc, c'est Decathlon aide les acheteurs à visualiser, choisir et acheter les produits et les voir en 3D dans leur environnement personnel. Alors, cette appli, Baptiste, est-ce que tu peux nous dire comment elle se présente et ce qu'on peut faire avec?
Tout à fait. Alors, c'est une appli qui se divise en trois parties. Une première où on fait un peu découvrir le Decathlon aux US, parce que donc on a une vidéo de présentation qui permet de découvrir Decathlon et ce qu'on fait, nos produits. Ensuite, il y a une partie innovation. Donc, tous les ans, Decathlon organise ce qu'on appelle le Reveal Innovation, qui nous permet de présenter, cette année, c'était 16 produits innovants de Decathlon qui ont été conçus en 2022-2023 et qui vont sortir en 2024. Et donc, du coup, dans cette partie innovation, on peut découvrir vraiment les produits, la vidéo de présentation de chaque produit, comment il a été créé, comment pensé, conçu par nos équipes, et manipuler en 3D chaque modèle 3D de chaque produit, afin de le découvrir sous toutes les coutures et de le mettre vraiment en taille réelle dans son environnement.
Ouais. Alors dans le communiqué de presse Décathlon que j'ai sous les yeux, donc qui a aussi été diffusé il y a quelques minutes, hein, on a cette capture d'écran. Alors on est dans un salon typique Apple quand même, hein, parquet, canapé gris clair, table basse en bois, et donc au milieu de cet espace, on a cette fenêtre. Qui semble être en lévitation au milieu de la table basse,
oui.
Donc à la marque de Décathlon, sur laquelle on voit effectivement des sortes de fiches,
oui.
Il y a deux vélos, il y a deux blousons, et puis on a l'impression qu'il y a des fiches en dessous, donc on va pouvoir scroller pour aller.
Alors ça c'est la partie shopping, du coup la dernière partie de l'application. Donc au début on était parti strictement sur cette expérience d'innovation où on avait vraiment les modèles 3D pour chaque produit très détaillés, etc. Maintenant le principal défi qu'on a chez Decathlon, c'est de scaler cette disponibilité de produits en 3D, donc vraiment avoir beaucoup et l'entièreté de notre catalogue de produits en 3D. Donc on est en train de mettre des solutions en place et c'est un nouveau monde pour Decathlon parce que justement on n'avait pas vraiment de marché shopping en 3D pour le moment, et le Vision Pro ouvre la voie à ce genre de pratique. Donc je travaille avec toutes les équipes de Decathlon en marque, etc., pour avoir tous ces modèles 3D. Donc du coup on a quand même mis en place une partie shopping avec quelques produits qu'on pourra visualiser en 3D et acheter en un clin d'œil avec Apple Pay.
Waouh. Oh. Et clin d'œil, tu fais appel à l'interface, alors, parce qu'on va pouvoir faire comme ça. Et...
c'est ça.
C'est trop fort.
Moi, c'est impressionnant comme c'est facile. C'est impressionnant comme c'est facile d'acheter avec Apple Pay et Optic ID, ouais. ça va très vite.
Faut pas se gourer.
Non.
Le vélo à 5000, tu clignes trop vite d'un œil. Bon, et toi, Baptiste, alors quel rôle tu as joué une fois que tu as convaincu de l'intérêt du projet? Est-ce que tu as pris part concrètement au développement?
Oui, alors on était une équipe de 3 développeurs qui ont pris parti sur ce projet, qu'on fait le pari de ce projet en mission secondaire, parce que chez Decathlon on a des missions principales et on peut avoir des missions secondaires pour creuser des sujets qui nous intéressent, et du coup on est tous passés sur notre mission secondaire sur ce projet là et donc du coup on était 3 développeurs à avoir depuis le mois d'octobre bûché là dessus il se peut que quelques week-ends aient été perdus aussi pour livrer en temps et en heure, mais surtout que la partie shopping a été rajoutée sur le mois de décembre en gros, donc voilà, c'était un gros challenge et je remercie mon équipe pour leur disponibilité et pour leur implication dans le projet.
Ouais. Et alors concrètement, puisque le Vision Pro n'était pas encore disponible, comment est-ce que vous faisiez pour développer l'appli tout dans le simulateur
Ouais, en effet, on a utilisé le simulateur et c'est beaucoup moins confort qu'avoir le vrai device pendant les labos, mais ça nous a bien permis de livrer un produit fini et de qualité. Et les outils Apple sont assez incroyables pour ça. On sent vraiment le background qu'ils ont eu sur l'iPhone et l'iPad pour construire un environnement de développement très solide, parce que le simulateur, même sur un MacBook Air, il tourne parfaitement et on a pu faire visualiser à l'ensemble des grands patrons de Decathlon sur le simulateur. Ils ont été quand même impressionnés et je leur ai dit c'est rien à côté de l'expérience réelle qu'on peut avoir dans le casque.
Alors justement, puisque tu l'as essayé le Vision Pro, puisque tu étais au lab, maintenant tu peux nous raconter ta découverte, voilà. Comment ça s'est passé, quelle impression ça t'a fait, quel souvenir tu en gardes?
C'était une journée incroyable, je l'ai pas retiré de la journée. En gros, à part pour manger, on n'avait pas le droit de le garder, mais sinon j'ai pu confortablement passer 5 à 6 heures dans le casque, bon, branché bien sûr.
Ah oui, c'est beaucoup plus que ceux qui le testent, les journalistes qui le testent.
Ouais. Oui,
Ah oui,
c'est pour ça que quand j'ai vu les feedbacks de il est trop lourd, etc. Pour moi, j'ai pas du tout eu ce ressenti, même avec. Moi, je l'ai essayé avec le solo knit band, là, le gros bandeau qui est livré avec, et il n'y avait pas encore les dual loops. Mmh.
C'est le deuxième. Deuxième attache qui passe au-dessus de la tête. Hein. Ouais. Donc,
c'est
ça. Pas cette attache-là, la deuxième attache.
Non. Et on avait le solo knit, et franchement, j'ai pas ressenti de fatigue.
Ah, ça, c'est plutôt bien.
Ouais, oui. Après, j'ai peut-être le coup solide. Hein.
Ah oui, peut-être aussi.
Oui, moi, j'avais deux petites questions là, depuis tout à l'heure que j'entends tout ça. La première, bon, tu as testé avec le simulateur, évidemment, et ça donne une vision assez réaliste de ton appli, mais est-ce que tu as pu la voir dans un Vision Pro, en réel, ce que ça donne les fenêtres, ou peut-être sur le modèle à Londres, je ne sais pas si tu avais déjà quelque chose que tu pouvais tester, ou si vous ne laissez pas faire voilà. Ça.
Quand j'ai su que j'ai été sélectionné pour aller au labo, j'ai fait un petit prototype, vraiment avec des choses qui traînaient, des bouts de ficelle, pour pouvoir déjà tester avant et avoir quelque chose, des questions à poser. Donc la première fois que j'ai testé, c'était plutôt avec un proto qui n'avait pas vocation à sortir. Et la deuxième fois que j'y suis retourné, là j'ai pu vraiment tester toute la partie innovation avec les produits 3D Decathlon dedans. Wow. Et me rendre compte vraiment de ce que ça pourrait rendre.
Parce que je pense que par rapport au simulateur, ça doit être une différence incroyable.
Oui, franchement, le simulateur, c'est rien à côté. Franchement, le ressenti est... Franchement, c'est vraiment très photoréaliste ce qu'on vit dans le Vision Pro. Le simulateur, ça se rapproche d'un très beau jeu vidéo. Mais voilà, on ne peut pas vraiment se rendre compte du potentiel avant de l'avoir essayé en réel.
Ouais. Alors, ta première impression, vraiment, quand tu l'as mis... La toute première fois et que tu as découvert la sensation en fait de le porter, et de voir l'environnement tout en ayant l'interface qui apparaît, etc. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu le raconterais?
Alors, ce qui est très impressionnant, c'est que quand on est habitué de l'écosystème Apple, en 5 minutes, tu sais l'utiliser et tu retrouves tes marques. Et franchement, tu as l'impression de l'avoir porté et de l'avoir utilisé depuis un mois, deux mois, en cinq minutes. Parce que tout est très intuitif. Après, il y a le réflexe de mettre ses mains devant soi, etc. Ce qui est des habitudes à perdre et à se dire, bah, en fait, c'est juste le clic. Et ce qui est perturbant, ce que Marcus Brownlee a bien décrit, c'était aussi de bien maintenir le regard sur les actions qu'on souhaite effectuer. Parce qu'on a l'habitude de cliquer sur un bouton sans vraiment regarder et passer notre regard ailleurs. Mmh. Mais là, faut vraiment bien insister sur le fait je vais cliquer ici, je vais déclencher cette action et pas changer son regard en se disant bah tiens, je vais ouvrir une vidéo, je vais tout de suite aller au milieu de la fenêtre pour regarder la vidéo. Non, faut vraiment le dire, je la lance et après ça charge et je la regarde. Et sinon, pour le ressenti, bah j'avais déjà essayé l'Oculus sur PC. Donc là, c'était vraiment le monde du jeu vidéo. Là, j'ai tout de suite ressenti la notion de spatial computing, c'est-à-dire qu'on sent que c'est pas fait pour faire forcément de l'exercice dedans, un peu comme Beat Saber, etc. Parce que certes, quand on fait des mouvements rapides, le poids du casque se fait sentir, un peu comme un AirPod Max. On sait que ça pèse quand même un certain poids, et du coup, on va pas aller faire son jogging avec. Et c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai pas eu de sentiment de poids sur la durée et de fatigue, mais vraiment, les mouvements rapides ou autres, on sent que c'est quelque chose avec des beaux matériaux et de qualité, mais faut pas bouger trop vite. Et d'ailleurs, dans l'OS, quand le casque se retire légèrement du visage, il y a tout de suite un message, attention, veuillez resserrer la prise, parce que ça peut être dangereux et le casque peut tomber, quoi. Donc,
au prix des pièces, il vaut mieux pas. Hein.
Prenez l'Apple Care. Mais voilà. Mais sinon, c'est du Apple tout craché. L'OS est léché, etc. Bon, je sais qu'il y a déjà des critiques sur le fait qu'on ne puisse pas réorganiser les applis. Elles ne sont pas ordre alphabétique. À l'installation des applis, ça se fera par ordre alphabétique. Ça me fait beaucoup penser à iPhone OS 1 où on pouvait strictement rien changer. Mais voilà, c'est une première version. Je pense qu'il y aura,
bien sûr,
je pense très fort qu'il y aura déjà des belles choses pour Vision OS 2 en juin. Et du coup, voilà, c'est tout bonnement impressionnant et on a envie de passer ses journées dedans.
Ouais. Je sais pas si vous avez lu l'article de Vanity Fair, le très long article de Vanity Fair sur le Vision Pro, avec d'ailleurs la première photo de Tim Cook qui porte le Vision Pro, photo prise dans son bureau à l'Apple Park à Cupertino. Ce ne sont que des waouh, incroyable et tout, et y compris de la part de journalistes ou de personnalités qui étaient très sceptiques en arrivant pour faire l'essai du Vision Pro. On a notamment la citation de James Cameron, donc Avatar, etc., qui explique en gros qu'il n'est pas du tout un Apple geek et qu'il ne leur donnerait pas le bon Dieu sans confession, en gros.
Oui.
Mais il explique que son expérience avec le Vision Pro avait presque un côté religieux, tellement c'était impressionnant. Et même l'auteur de l'article, hein, Nick Bilton, explique à quel point il n'avait aucun intérêt pour le Vision Pro jusqu'à ce qu'il l'essaye. Pour avoir essayé tous les masques de réalité virtuelle avant lui, je crois que son premier c'était un Oculus en 2013. Vraiment, même l'annonce du Vision Pro au mois de juin, il ne l'avait pas suivi. Enfin, vraiment, il était. C'était sans doute le plus difficile à convaincre. Et lui aussi a fait waouh au final. Donc, assez impressionnant. Il explique que, en gros, comparer le Vision Pro à un casque de réalité virtuelle, c'est comme comparer une bicyclette à un Gulfstream G800. Qui est une sorte de Falcon, quoi. Voilà. un avion privé, un petit avion privé. Voilà. Bon, bah écoute, grand bravo pour cette appli, Baptiste. On souhaite beaucoup de succès à Decathlon dans cette initiative. C'est bien, c'est super.
Et j'ai ma petite question secondaire pour lui, juste avant.
Mais bien sûr, on a
mais
le droit,
oui, parce que c'était bon. Après, tu peux ne pas répondre, mais c'était bon. Vu le coût de projecteur, parce que c'est une nouvelle appli, et donc pour Apple, c'est super important parce que c'est un domaine où certainement ils n'avaient pas autre chose. Et ils vont pouvoir le montrer et le surmontrer comme d'une des applis prouvant qu'on arrive à faire des choses en dehors des applis de base que tout le monde a vues et revues. Donc, est-ce qu'en contrepartie, ils vous donnent des Vision Pro avant tout le monde pour que vous puissiez le montrer au chef? Même pas.
Même pas.
Ha.
Même pas. Il y a certaines entreprises qui ont eu des dev kits, donc des unités en avance, mais je pense que les chanceux ont été majoritairement aux US. Parce que nous, on était en Europe, donc c'était pas la première vague la plus intéressante.
Ouais, oui.
Donc, il y avait quelques heureux qu'on a dû en recevoir et les garder sous clé. Mais malheureusement, nous, on a dû faire avec le simulateur et les deux labos qu'on a pu faire. Je sais que les labos étaient organisés très souvent et nous, on n'avait pas forcément la possibilité d'y aller toutes les semaines parce que les développeurs qui étaient vraiment motivés, je pouvais y aller assez souvent. Mais nous, on en a fait deux, ça nous a suffi, on a pu répondre à nos questions. Et après, on avait eu accès à des contacts en interne chez Apple pour améliorer notre app, que ce soit en design, en techno, etc. Et on a vraiment eu des très bonnes relations avec les relations développeurs d'Apple et qui ont gardé le contact même après l'atelier. Donc c'était top et on a appris beaucoup de choses.
Bon, tu peux profiter et leur envoyer un message à tous ces gens-là en leur disant que la France est un très très bon pays pour le Vision Pro,
oui,
et que le lancer en Angleterre et en Allemagne, on s'en fiche
aucun
un peu,
intérêt.
Que l'important c'est que ça soit lancé en France, quoi.
Voilà.
Je leur dirai.
Mais Eli, à mon avis, maintenant que Decathlon est cité dans le communiqué de presse d'Apple,
oui,
ils auront la V2 du Vision Pro. Mmh.
On va croiser les doigts.
J'espère pour vous. Bon, si vous avez lu cet article de Vanity Fair, hein, vraiment auquel je vous renvoie, je l'ai imprimé. Il est très long. Il y a vraiment beaucoup d'infos, beaucoup de choses à lire, et notamment le récit par Tim Cook de son tout premier essai avec un prototype. Alors c'est étonnant parce que c'est pas daté, mais ça pourrait faire à peu près 8 ans.
Oui.
En tout cas, c'était avant avant l'Apple Park. C'était encore à One Infinite Loop. Donc ça fait des années. C'était une sorte de monstre. Ça n'avait pas du tout la forme d'un masque, apparemment. Et la puissance informatique qui envoyait le flux sur les écrans, qui était devant Tim Cook, était dans une autre pièce.
Ouais, c'était un supercomputer, là, j'ai lu voilà. Ça vite fait. Ouais.
Donc il explique, je n'avais aucune idée du temps que ça prendrait, mais je savais qu'un jour, on finirait par sortir un produit qu'on pourrait mettre devant ses yeux et qui soit portable. Voilà. Donc c'est évidemment que la première génération, c'est le début, hein, en fait, mais voilà, son premier test à lui date peut-être de 2015.
Juste après l'Apple Watch, du coup.
Peut-être, ouais, peut-être. Donc c'est...
Donc bien avant qu'Apple ait des processeurs M, évidemment, donc pas du tout la même puissance de calcul. Hein.
Ben oui.
Tout à fait.
Donc voilà, c'est assez fou. C'est pour dans quelques heures. Quand vous nous écouterez, le Vision Pro sera sans doute dispo officiellement aux US. Et dans le reste du monde, non, puisque nous sommes contraints d'attendre. Ça doit être d'autant plus difficile pour toi, Baptiste, de ne pas pouvoir...
Alors, on essaye d'avoir des personnes de Decathlon USA qui nous en trouvent un. Donc, on va essayer d'en rapatrier un pour ne serait-ce que continuer les développements dans de meilleures conditions et d'être plus rapide.
Bien sûr. Bah, il sera bridé US, mais en anglais, bon, ça va, tu te débrouilles, donc bon, c'est pas
ça,
grave.
Ça va.
Hein.
Oui. Bon, en tout cas, bravo Baptiste, et puis merci du coup d'être là. Journée de dingue pour toi. Tu es quand même au rendez-vous, et en plus, on a la primeur de cette histoire, cette belle histoire autour de cette appli Decathlon pour le Vision Pro. On passe à l'autre grand sujet de la semaine. Alors, sujet beaucoup plus français, hein, même uniquement français, puisqu'il concerne Free et l'officialisation de la Freebox V9, comme on l'a appelé jusqu'à cette semaine. C'est la Freebox Ultra que Xavier Niel a présentée en milieu de semaine. Ellie, toi qui es utilisateur Free, c'est une nouvelle que tu attendais avec beaucoup d'impatience aussi.
Ah oui, depuis les premières rumeurs, bon pourtant j'ai la Delta qui marche bien et tout, mais quand Free dit on va sortir une nouvelle box, évidemment on est aux aguets, et puis j'avais vu qu'il y avait la conférence de presse avant de savoir que toi tu y allais, donc j'avais mis des alertes YouTube, etc. Donc je l'ai suivi en direct, hein, je n'ai pas perdu une miette, j'avais même mis sur mon grand écran, tu vois, pour vraiment tout voir.
C'était bien, un peu à la Apple d'ailleurs, parce que c'était essentiellement une vidéo hein, streamée.
C'est ça.
Qui avait été tournée, montée, produite à l'avance. Et Xavier Niel est arrivé en live, en vrai, sur scène devant nous, uniquement pour faire le résumé finalement des caractéristiques de cette Freebox Ultra. Et puis annoncer les éléments importants, notamment le prix, et puis une grosse surprise dont on va parler. Alors, les caractéristiques essentielles de cette Freebox Ultra, qui, on va dire, ni ovale, ni rectangulaire, c'est un peu un mélange des deux. Hein ? On va dire qu'elle est plutôt de format rectangulaire, mais avec les coins très très arrondis. Une sorte de gros galet étiré avec un petit écran sur le dessus. Alors les principales caractéristiques, d'abord en termes de débit, Free promet du 8 gigabits par seconde dans les deux sens, c'est-à-dire en téléchargement et en upload. Le téléchargement, c'est pas si extraordinaire, l'upload ça l'est nettement plus. Le Wi-Fi, il y avait une très grosse incertitude sur la version du Wi-Fi qui allait être embarquée, puisque le Wi-Fi 7 n'a été officialisé que le 8 janvier, c'était au CES à Las Vegas, donc il y a 3 semaines. Et bien la nouvelle Freebox embarque le Wi-Fi 7, et c'est pas une mise à jour qui sera promise pour dans quelques semaines ou quelques mois, elle est Wi-Fi 7 en sortie d'usine. Donc ça, c'est un point non négligeable, même si les appareils Wi-Fi 7 sont encore assez peu nombreux. Mais le Samsung Galaxy S24 Ultra qui est sorti hier, 31 janvier, et Wi-Fi 7. Et puis, il y a déjà un certain nombre de smartphones Android qui le sont. Je pense au Google Pixel 8 et 8 Pro. Je pense au OnePlus aussi. Enfin, il y a pas mal de modèles qui sont déjà Wi-Fi 7. Le répéteur qui est oui. inclus dans cette Freebox Ultra est Wi-Fi 7 lui aussi.
Et donc, Mesh. Et Mesh,
c'est vrai, c'est vrai. Donc, Élie, pour résumer le Wi-Fi 7, alors c'est pas révolutionnaire, mais c'est une évolution intéressante par rapport au Wi-Fi 6E.
Oui, parce qu'en fait, ça propose d'abord beaucoup plus de vitesse. Donc ça, c'est la première chose importante à dire, c'est qu'on dépasse le giga allègrement en Wi-Fi. On peut même aller jusqu'à 4 et 5 dans des conditions un peu idéales. Et surtout, il y a ce nouveau canal qui va permettre de faire des tas de choses, parce que c'est un canal qui est peu occupé. Donc ça permettra de connecter plus d'appareils et de les connecter à une bonne vitesse. Parce que si on n'a pas un bon fond de panier, comme disent les fabricants de hardware, on peut promettre les débits qu'on veut, mais dès qu'il y aura trois trucs connectés, on va avoir le débit qui va être divisé. Donc ce qui est important dans le Wi-Fi 7, c'est qu'on va avoir de la marge pour que si on a plusieurs appareils Wi-Fi 7, ils puissent s'exprimer à pleine vitesse. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc évidemment, les premiers heureux possesseurs vont pouvoir toucher la boîte. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent utiliser la vitesse à condition qu'il n'ait que des appareils déjà compatibles, ce qui n'est pas le cas tout de suite. Mais même en utilisant des appareils qui supportent le Wi-Fi 6 ou le 6E, ben on va quand même pouvoir utiliser cette largeur de bande, donc cette possibilité d'utiliser l'espace à défaut d'utiliser la vitesse. Donc c'est déjà pas mal.
Voilà. Si on compare au Wi-Fi 6, hein, sachant que le Wi-Fi 6E était nettement plus puissant, bah c'est x5 hein, quand on passe du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 7 en débit. Donc c'est pas inintéressant. Petit détail, quand on veut se connecter au Wi-Fi de la Freebox Ultra, on appuie juste sur le bouton du dessus et il y a un QR code qu'on flash avec son téléphone.
Ouais. Comme sur la pop.
On n'a pas à rentrer le mot de passe. Et c'est instantané, c'est hyper pratique. Parmi les autres caractéristiques, alors il y a un mode veille total qui permet d'économiser 95% de l'énergie. Il y a un mode éco Wi-Fi qui permet d'adapter le Wi-Fi aux besoins qu'on a à un instant T. Et donc on va économiser de l'énergie en adaptant le Wi-Fi en fonction des moments. Elle est fournie avec un player TV qui est le même, si je ne me trompe pas.
Oui, pour l'instant. Parce que les rumeurs disent que Free est en train de développer un player. Mais ça, officiellement, tant qu'il n'est pas annoncé, il n'est pas annoncé.
Voilà, donc c'est le player pop, hein, le petit player noir rond.
Qui marche bien, hein. Honnêtement, il marche bien.
Oui, sauf chez moi, mais qui marche bien. Sinon, ouais. Absolument.
Il vaut mieux mettre une Apple TV.
Voilà,
et dans tous les cas.
Absolument. On est bien d'accord. Free fournit un petit galet 4G avec sa Freebox Ultra.
Très bonne nouvelle, ça.
Pocket Wi-Fi. Et donc, si on est en train de déménager ou si on part en vacances, on a toujours avec soi un moyen de se connecter à Internet. C'est pas de la 5G, c'est de la 4G, mais ça peut rendre des services. C'est plutôt sympa. Et puis, Free met en place une assistance dont je demande à voir, on va dire, l'efficacité, ça s'appelle Free Proxy.
Oui, en fait,
des petites équipes locales, 10 personnes qui peuvent intervenir selon Free très rapidement et qui évitent de passer par des call centers souvent délocalisés par d'autres opérateurs à l'étranger. Là, on appelle des gens qui habitent en gros dans le quartier et qui peuvent intervenir rapidement.
Oui.
Tu les utilises souvent, tu dis, Élie ?
Oui, absolument, parce que j'ai eu quelques soucis un peu bizarroïdes. Et donc, dès qu'on appelle le 3244 et qu'il y a un free proxy à côté, Ça bascule automatiquement. Et donc, à travers l'application de l'iPhone ou à travers un échange de messages, on rentre en contact. Et là, on a un conseiller parmi... en tout cas, moi, j'en ai un qui est pas très loin de la maison, à quelques kilomètres. C'est eux qui prennent le relais. Et ils sont extrêmement rapides pour répondre. Donc, au début, c'est un échange de messages. Donc, immédiatement, il y a quelqu'un qui prend le contrôle de la box et qui fait les tests de base par rapport à ce qu'on a pu lui expliquer. Et soit il suggère une solution, et moi, dans le dernier cas, après avoir fait quelques tests, il ne comprenait pas. Il m'a dit, je vous envoie un technicien, il sera chez vous dans moins de 2 heures. Et une heure après, il y avait un technicien chez moi.
Pas mal.
Et vraiment, on ne peut pas faire plus rapide que ça, hein, parce que c'était en plus un week-end. Donc, ça assure le samedi après-midi, quand on a le technicien mal, qui vient 2 heures après. Je n'ai pas essayé dimanche, mais il paraît qu'ils sont ouverts. Mais, donc, mais vraiment impressionnant.
Alors, il y a 130 sites d'assistance, on va dire, locale en France. Il en manque juste en Corse, et apparemment, c'est en train d'ouvrir en Corse aussi. Donc voilà, plutôt pas mal. Le dernier point, et ça je trouve que commercialement c'est vraiment une des forces de Free, c'est que quand on est abonné Freebox, on a une réduction sur l'abonnement Free Mobile. Mmh. 5G avec de la 5G en illimité.
Oui.
C'est le seul opérateur à ma connaissance qui offre de la 5G illimitée, à condition d'être abonné aussi Freebox. Mmh. La nouveauté, c'est que jusqu'à maintenant, quand on était abonné Freebox, on avait le droit à un abonnement à tarif réduit Free Mobile, donc à 9,99. Non, pardon.
Pour la pop.
Non, c'est
pour
quoi la pop. C'est quoi l'abonnement normal Free Mobile?
C'est 15,99 quand on a une Freebox et 19,99 quand on l'a pas. Voilà. Après, là, donc ils ont fait un truc pour la première année.
Oui, oui. Donc à 15,99 par mois au lieu de 19,99 par mois. Dans le cas de la Freebox Ultra, si vous prenez un nouveau forfait mobile, vous ne le paierez même pas 15,99 par mois, mais 9,99 par mois pendant la première année. Ensuite, 15,99 par mois au lieu de 19,99. Et la nouveauté de cette Freebox Ultra, c'est que ce n'est pas un abonnement que vous pouvez avoir à ce tarif-là, mais 4 abonnements désormais. Donc ça peut être vous, votre conjoint et 2 enfants. Mmh. Et donc à 9,99 pendant un an, puis 15,99 pendant le reste de votre abonnement Freebox Ultra. Donc voilà le package. On va évidemment parler des contenus aussi, mais avant ça je vous propose qu'on écoute Xavier Niel. C'était mardi matin au siège d'Iliad Free à Paris. Eh bien on se téléporte tout de suite dans ce quartier de la Madeleine. Bonjour Xavier Niel.
Bonjour.
Bienvenue sur iWeek.
Merci, merci d'avoir la gentillesse d'être venu assister à cette présentation.
Freebox Ultra, très tendance Ultra.
Ouais, je sais pas, on est beaucoup copié, on est habitué, donc voilà. Donc peut-être que d'autres ont utilisé la marque avant nous, mais en fait c'est une copie, ils savaient qu'on allait s'appeler comme ça, je vois que ça.
C'est la nouvelle Freebox Ultime, on peut le dire comme ça?
Ouais, c'est notre Freebox la plus avancée en termes technologiques, en termes de choses incluses. Voilà, donc c'est une volonté toujours d'être en avance technologiquement et d'être en avance sur ce qu'on est capable d'inclure.
Alors, on va commencer par la puissance. La fibre, bien sûr, avec du 8 gigabits symétrique et le Wi-Fi 7, c'est les deux grosses nouveautés.
Ça fait partie des deux grosses nouveautés. On a une autre grosse nouveauté, c'est l'inclusion d'un boîtier qui permet, avant même d'avoir sa fibre, de se connecter en Wi-Fi et puis après de garder ce boîtier quand on part en vacances et donc d'avoir un peu une box qui nous suit quand on est en vacances. Mais donc sur les deux sujets, c'est de faire du 8 gigabits symétrique. C'était extrêmement technologiquement extrêmement compliqué et avancé. On avait annoncé déjà cette technologie dans un sens en débit descendant il y a 5 ans. Nos concurrents, ils y sont pas encore tout à fait, mais voilà, on rajoute une petite couche et on essaye toujours d'avoir 5 ans. En avance. Et puis le Wi-Fi 7, c'est cette nouvelle norme qui permet d'avoir un Wi-Fi 6 fois plus rapide. Ça a été certifié le 8 janvier. C'est disponible aujourd'hui pour la première fois en volume.
Ouais, vous avez étonné même les spécialistes du réseau, du monde des réseaux qui étaient dans la salle, qui ne pensaient pas que vous seriez prêts. Ce serait peut-être une mise à jour dans quelques mois.
Non, on a un partenariat historique avec un fabricant de composants qui s'appelle Qualcomm et qui est celui qui est le plus en avance sur le Wi-Fi. Et on a négocié avec eux quelque chose qui nous permettait en avance de phase, de faire des mises à jour jusqu'à la dernière seconde. Normalement, la certification du Wi-Fi 7 devait arriver en décembre, donc on devait annoncer en décembre, et puis bon, elle est arrivée que le 8 janvier, et le temps qu'on ait tous les paramètres et les mises à jour, et ben, on lance qu'aujourd'hui.
Concrètement, est-ce que ce débit, est-ce qu'il est vraiment utile pour le commun des mortels, le grand public qui utilise Internet à la maison ?
Vous savez, la spécialité ou le vrai sujet chez Free, c'est qu'on met plein de choses, énormément de choses dans nos box, et chacun va piocher ce dont il a besoin, mais tout est inclus, on n'a pas de supplément. Et on est parti de ça, et on est parti de cette idée-là. Et donc oui, à un instant de raison, tous nos abonnés peuvent avoir besoin d'un débit de malade, parce que quand on est pressé et qu'on a besoin descendant, quand on est pressé et qu'on a besoin de downloader un film qui fait 100 gigas ou 200 gigas, bah on est content d'avoir une connexion à 8 gigabits. Et puis de la même manière, quand on a un film chez soi et qu'on veut l'envoyer en urgence à un copain, on est content que ça prenne 30 secondes au lieu de prendre 20 minutes. Et donc oui, ça sert à des moments dans son abonnement ou à des instants précis de raison, on peut en avoir besoin. Mais encore une fois, est-ce que ça sert toujours d'avoir un ordinateur plus puissant ? Bah ouais, quand même, à la fin ça finit toujours par servir parce qu'on a des applications qui en nécessitent. Donc l'idée c'est toujours la même, c'est d'être en avance de phase et d'être capable d'intégrer plein de services, des innovations technologiques en avance de phase.
Maxime Saada dans la salle, l'accord avec Canal+. Alors c'est Canal+ Live qui est inclus dans l'abonnement de la Freebox Ultra. Live, ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire que c'est la chaîne Canal+. En fait, les contenus de Canal+, on a eu une discussion avec Canal+, et l'ultra majorité de leur consommation de Canal+, c'est fait en live au travers de la chaîne de télé. Et donc, on a eu une discussion avec eux en disant, mais sur cette chaîne, vous avez tous vos contenus, vos 300 films annuels, vos séries originales, les droits sportifs, la Ligue des Champions, le Top 14, le golf, la Formule 1, vous avez tout ça là-dessus. Pourquoi on ne trouve pas un deal intelligent dans lequel on a la possibilité de distribuer la chaîne Canal+ en live, juste la chaîne Canal+ en live, pas d'autres services que vous pouvez avoir à côté. Et ça a été le début de notre discussion et qui a permis d'aboutir à ce partenariat et à l'inclusion dans cette box de la chaîne Canal+ Live.
Ça veut dire qu'il n'y a pas MyCanal, il n'y a pas le replay, il n'y a pas ces services-là ?
On a plein de choses que nous, on a déjà, parce qu'on a déjà les chaînes supplémentaires de Canal. Mais par contre, il y a des choses, en effet, qu'il n'y a pas. Il n'y a pas le replay, dans le sens où on l'entend. Il y a le start-over, ça permet de recommencer un film dès le début. Il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas le replay, il n'y a pas de choses comme ça. Et l'idée, c'est d'initialiser un parc, c'est-à-dire de faire découvrir Canal. Et puis après, qu'un certain nombre de personnes aient envie d'acheter des bouts supplémentaires ou des services supplémentaires de Canal.
Un point hyper important, cette proximité dans l'assistance. Ouais. Vous avez combien de millions d'abonnés Internet, Xavier ?
Alors, cette assistance de proximité, elle sert à la fois pour nos 7 millions globalement d'abonnés fixes et nos 13 millions, un peu plus de 13 millions d'abonnés mobiles. Donc, c'est plus de 20 millions d'abonnés qui ont cette assistance de proximité. En fait, sur cette assistance de proximité, on est parti d'un constat assez simple. C'est que des gens faisaient le support de la même manière qu'il y a 30 ou 35 ans. C'est-à-dire que si vous regardez la manière dont je faisais du support quand moi j'ai commencé les télécoms il y a presque 40 ans, on n'a rien changé. Et donc on appelle, on a quelqu'un qui nous répond. Et puis par contre, il y a une chose qui a changé, on a cherché à faire des économies. Et donc de plus en plus, les opérateurs ont mis leur centre de support dans des pays à bas coût de main d'œuvre. Et en fait, on s'est dit, en fait, ça va pas dans le sens du service ou d'un service. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé de créer à proximité de nos abonnés. Par exemple, à Paris, c'est sûr par arrondissement, mais dans Nevers, dans la ville de Nevers, on a un site, ou dans la ville de Tours, on a un site. Et puis, parfois, c'est sur des zones plus grandes, mais juste à la proximité, au coin de la rue de nos abonnés, de créer des services dans lesquels on a une petite dizaine de salariés qui répondent juste aux voisins. Donc c'est-à-dire que quand on appelle le support et qu'on habite à Lille, on n'a plus quelqu'un qui a un accent marseillais ou d'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est un avantage. Donc on a des gens qui sont à proximité, qui connaissent les problèmes qui peuvent intervenir à côté de chez eux, qui ont une proximité, si vous leur dites j'habite à côté de la boulangerie, bah, ils le visualisent, qui peuvent se déplacer chez vous, vous rendre service. Et en fait, on s'est aperçu au bout que c'était un win-win-win-win. C'était un win pour nos abonnés, parce qu'ils avaient un service de meilleure qualité, parce que quand ils appellent une petite équipe de 8 ou 10 personnes, ils tombent toujours sur les mêmes personnes. On a un suivi personnalisé. Donc ça, c'est un premier avantage pour eux, une meilleure réponse, parce qu'ils sont là à côté. C'est un win pour nos salariés, puisque travailler dans des équipes de 10, c'est pas pareil que de travailler sur des plateaux avec 500 personnes. Donc c'est un avantage important pour nos salariés, parce qu'ils sont dans des petites équipes entre eux. Et puis c'est un avantage pour l'entreprise, parce que c'est moins de churn, c'est plus de recrutement, parce que ça marche en bouche à oreille. Et au bout du bout, ça coûte pas vraiment plus cher. parce qu'on a une meilleure qualité de service, puisque simplement tout le monde est concerné, les salariés sont incroyablement concernés parce qu'ils connaissent les abonnés qu'on a à l'autre bout, et puis ce sont leurs voisins, ce sont des gens avec qui ils habitent. Et voilà, donc ça a été un win-win, ce service de proximité. On l'a dans 130 points de la France, c'est moins de 50% aujourd'hui de notre base qui est couverte. À la fin de l'année, ça sera plus de 50%, et puis on continue de le faire partout, et on continue de le développer, et puis on a annoncé l'ouverture de notre premier site, notre première équipe en Corse, parce qu'aujourd'hui on était dans 12 régions sur 13, on n'était pas en Corse, donc on arrive en Corse.
J'ai une dernière question, une question technique qu'on nous a posée en amont de cette conférence, qui concerne les disques durs de la Delta. Est-ce qu'ils vont être réutilisables avec la nouvelle box?
Alors, je ne sais pas, je ne pense pas, je ne sais pas répondre à cette question, mais je ne pense pas. On a ajouté la possibilité d'avoir des disques ultra rapides maintenant dans cette box, très fin. On a rajouté ça parce que beaucoup de personnes utilisent leurs disques durs à des fins, non pas d'enregistrement des contenus, mais à des fins de sauvegarde de leurs fichiers musicaux, de leurs images, de leurs films.
Qu'est-ce qui empêcherait que ce soit possible?
Je ne sais pas répondre. En fait, je ne connais pas la réponse à la question, donc je suis très très mal à l'aise de répondre ça. Merde. Et je ne savais pas qu'on allait me la poser. J'aurais bossé, j'aurais posé la question. Bah, ça peut être un file système différent ou des choses comme ça différentes.
Apparemment, il y a beaucoup de vos clients sur Delta qui utilisent les disques durs. Donc
Et puis sur la Delta, il y avait un sujet, c'est un point supplémentaire, c'est qu'on pouvait avoir, si je ne me trompe pas, 4 disques durs.
Merci Xavier.
Merci,
et
merci
plein de succès à la Freebox Ultra.
C'est sympa, merci, à bientôt.
Merci.
Voilà, c'était toi la question sur les disques durs, mon cher Eli.
En fait, il y a pas
de place.
Qu'est-ce
que tu fais avec tes disques durs?
J'ai tous mes fichiers audio et vidéo, donc j'ai en fait 4 disques de 2 Tera en RAID 5, donc ça me fait 6 Tera disponibles rapidement.
Ah et oui, je comprends donc, que ça te préoccupe.
du coup, je suis pas encore passé à l'ultra d'abord parce que ça c'était le lancement. Après donc à la fin de la conférence de presse, j'avais déjà le site, j'étais en train de cliquer de comment je fais pour faire ma mise à jour. Ça discutait pas mal sur X, etc. Des gens comme moi qui étaient tous frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir une réponse. C'est là où j'ai appelé Free Proxy encore une fois. Et là, j'ai eu une réponse en disant oh, écoutez, non, pour les abonnés, ça prendra 3 mois. Donc j'étais extrêmement déçu. Ça gueulait pas mal sur les réseaux en disant mais pourquoi un nouvel abonné peut l'avoir tout de suite et nous, on va attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, etc. Et donc, on ne pouvait pas accéder à l'interface. Or, donc j'étais très déçu, j'avais laissé tomber le projet et tout à l'heure, cet après-midi, donc jeudi, je suis allé sur mon espace client et il me propose passer à la Freebox Ultra. Je me dis chic! Je clique immédiatement et là, il me dit, vous pouvez précommander, mais vu la popularité du produit, il vous sera livré dans les 3 mois. Donc, j'ai arrêté de cliquer en me disant, c'est pas possible. Ils m'en veulent.
C'est la rançon de succès.
Ouais.
Bon, petit point quand même pour être complètement complet sur cette Freebox Ultra. Je ne vous ai pas donné les prix de l'abonnement. Donc, il y a 2 abonnements. Il y a la Freebox Ultra, on va dire avec tout, et notamment avec tous les contenus. Donc ça comprend Canal Plus Live, Disney Plus, Netflix, Prime Video, TV par canal, Universal Plus, la presse avec caféine et puis toute l'offre de chaînes incluse dans le bouquet Oki. Donc ça c'est 49,99 la première année et 59,99 ensuite. Et puis pour 10€ de moins. Donc 39,99 la première année et 49,99 après. Vous avez la Freebox Ultra sans les contenus, donc sans Canal+, sans Netflix, sans Prime, etc. À vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Vous avez la possibilité de choisir l'une des 2 options, sachant que vous pouvez aussi à la commande, par exemple, si vous n'avez pas besoin du répéteur Wi-Fi 7, demander à ne pas vous le faire envoyer, ce qui évite de recevoir des périphériques que vous n'utiliserez jamais.
Mais ça coûte le même prix.
Éco-responsable. Alors ça coûte le même prix, mais au moins ça évite de gaspiller, de polluer, enfin voilà, de produire inutilement. C'est plutôt pas mal. C'est quoi ton sentiment, Baptiste, sur cette Freebox Ultra?
J'aime beaucoup. Je suis pas encore passé dessus. Moi, j'ai la pop. Je suis Freebox Forever depuis le début, mais. Du coup, ce qui me freine un peu, c'est que moi, actuellement, je bénéficie d'un abonnement Free Mobile à 9,99, du coup. mais ad vitam tant que j'ai mon abonnement pop. Et ce qui me freine un peu, c'est le fait de passer à 15,99 sur cet abonnement-là si je prends la Ultra. J'aurais aimé qu'ils fassent 4 abonnements à 9,99 puis 15 si t'en gardes 4, ou 2 mais à vie. Ça aurait été peut-être intelligent. Et également, j'ai remarqué qu'ils ne subventionnaient plus l'Apple TV sur la Ultra. C'est resté uniquement sur
pour
la Pop.
Pour l'instant, oui.
Ouais. Donc voilà, mais sinon, le reste,
à
pour les
avis,
abonnements, etc.
À mon avis, tu peux négocier. Hein. Tu peux appeler le service client. Tu peux négocier ça.
On va négocier.
Élie, je te donnerai quelques noms.
Ok.
Voilà. Monsieur a des contacts. Tu avais une dernière question, un dernier point à ajouter, Élie, sur la Freebox Ultra.
Oui, parce qu'en fait, ce qui m'a un peu surpris, c'est que, bon, c'est présenté à la Free et très, très bien présenté, mais les nouveautés, ça plus à voir avec la vitesse de la fibre, c'est pas la box, hein, c'est le fait que dans la fibre on peut faire du 8, c'est pas la box toute seule, elle peut pas le faire, hein, donc et le Wi-Fi 7, ok, ça c'est très, mais on n'a pas vraiment parlé des caractéristiques de la box. Alors oui, il a cité le processeur qui est dedans, mais sans plus. Il n'a pas du tout. Il a parlé des ports Ethernet, et ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc je complète, qui sont à 2,5 Go au lieu d'1 Go, les 4 ports, plus 2 ports 10 Go. Donc, ça, c'est bien. Un pour la fibre, hein, évidemment. Et le deuxième, qui est un port SFP pour pouvoir brancher un boîtier comme le mien, qui permet de dépasser le giga et d'aller effectivement jusqu'à 10 gigas si jamais on les avait, ou jusqu'à 8 si on les avait. Parce que c'est bien que ça arrive à la box, mais après, il faut que ça arrive sur votre Mac. Bon, sur l'iPhone, 8 gigas, j'y crois pas beaucoup, mais sur le Mac, ça serait possible si vous habitez Paris. Parce que moi, je connais, j'ai des amis qui ont des Freebox à Paris et ils sont entre 6 et 8. Donc, ce qui veut dire que c'est parfaitement respecté. Sur les collines niçoises, malheureusement, je m'arrête à 4. Parce que, vu la densité de population, ils partagent une fibre entre plusieurs, ce qui est très mal. On ne partage pas une fibre, mais que je comprends. Et donc, on est limité. Il faut que je tue les voisins dans la rue pour que mon débit monte. Mais il paraît que ce n'est pas bien non plus. Donc, ouais. Donc on a parlé de cette infrastructure, mais il n'a pas dit un mot de l'interface. Bon, pour ceux qui suivent Free, et je pense que Baptiste, tu ne vas pas me contredire, quand on fait mafreebox.freebox.fr, on tombe sur l'interface de gestion de la box. Elle n'a pas changé depuis la préhistoire. Hein. C'était avant la révolution, elle était déjà comme ça. Donc moi, j'aurais aimé un petit coup de jeûne sur la Ultra. Je ne sais pas, une présentation, c'est rien. C'est du HTML. Hein. Donc un truc qui donne envie en disant j'ai une nouvelle box, j'ai une nouvelle interface. C'est... Bon, c'est pas ça qui est important parce qu'on s'y connecte pas tous les jours, hein. Mais voilà, c'est mes petits trucs. Et c'est vrai que les disques durs, c'est... parce qu'on peut mettre de la NVE RAM, il l'a montré pendant la présentation, donc il y a un slot. J'ai regardé le prix d'un slot, enfin d'une barrette NVE RAM. En 2 Tera, je ne te parle même pas de 4, de 6 ou de plus. Mais bon, c'est des prix à la Apple. Hein, donc, pour remplacer...
Ben oui. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait vous dire sur cette Freebox Ultra annoncée mardi matin par Free. On va passer à nos coups de cœur de la semaine. Est-ce que vous en avez un? Je sais que tu as un coup de cœur, toi, Élie.
Yes. Allez, si go. Je vous dis, est-ce que vous pratiquez l'arc? C'est une petite
question. Le tir à l'arc?
Non, l'arc. Tout seul. Est-ce que vous connaissez l'arc?
Donc, alors, je ne crois pas.
Bon, eh bien, vous êtes passé, mais ce n'est pas vieux parce que c'est sorti mardi. C'est une nouvelle appli iOS et évidemment un site pour le Mac. Et c'est de l'intelligence artificielle pour faire du web browsing, mais extrêmement bien faite. Donc, ça concurrence ce qu'on peut faire sur du ChatGPT, du Copilot, du Bard, etc. D'une façon assez simple, vous posez une question dans toutes les langues possibles et imaginables et vous pouvez choisir quel moteur de recherche vous utilisez par défaut. Mais sinon, vous avez un petit bouton qui, bon, moi, je l'ai installé en anglais, qui dit « Browse for me », c'est-à-dire « Navigue pour moi ». Et là, l'intelligence artificielle vous donne sur n'importe quel sujet ou question une version un peu résumée et classée par rapport à ce que vous lui demandez. Et vous pouvez, bien sûr, après, cliquer sur les liens et aller sur les sites. Mais c'est étonnamment bien fait. Et vous pouvez, simplement en faisant du swipe à gauche et à droite, revenir sur la question précédente, aller en complément. C'est magnifiquement bien fait. C'est gratuit. Donc, mon coup de cœur, installez-le ou connectez-vous sur le site Arc, je crois que c'est .net, et vous allez voir, c'est magique.
Tu as testé, Baptiste, tu as vu passer Arc?
Oui, j'ai installé, j'ai testé une fois pour voir comment ça rendait. Mais oui, c'est impressionnant.
Bon, est-ce que tu as un coup de cœur ou est-ce que ton cerveau est saturé de Vision Pro et d'appli Decathlon?
Bah, c'est un peu ça, le premier coup de cœur du jour aujourd'hui, du coup, c'est d'avoir été mentionné dans un communiqué de presse Apple, ça a fait ma journée. Mais sinon, j'ai rattrapé un peu mon retard sur les séries Apple TV+, et Shrinking, j'ai beaucoup apprécié, et je recommande cette série à tout le monde.
Voilà. Puis on est obligé cette semaine, et Gilles n'est pas là, donc on peut le dire pour lui, en coup de cœur de Gilles, parler de Masters of the Air, deux premiers épisodes qui sont incroyables.
Voilà, ouais. On se retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale sur une base de l'US Air Force en Angleterre, avec des missions, notamment en Allemagne, qui sont proches des missions de mission suicide en fait, où la moitié de l'escadrille va revenir seulement. Et effectivement, ça commence très très fort avec des images extraordinaires de combats aériens. Voilà pour cet épisode d'iWeek, l'épisode 171, au cœur de l'actu, sachant que dans un peu moins de 4 heures, Apple annoncera ses résultats trimestriels pour le trimestre qui s'est achevé fin décembre, c'est ça, voilà, donc le trimestre de Noël. Donc un call avec les analystes qui sera d'autant plus scruté qu'on est donc à quelques heures de la sortie du Vision Pro, et j'imagine que Tim Cook devra répondre à quelques questions sur les précommandes, en tout cas du masque, et la manière dont il est accueilli par la communauté des développeurs et des éditeurs. Peut-être des questions sur le refus de Netflix ou de YouTube, peut-être de Meta aussi, d'aller sur le Vision Pro. Sait-on jamais. En tout cas, attendez-vous à un iWeek Express dans la foulée de ces résultats pour tout savoir sur ce qui en sortira. Merci Baptiste, merci Ali d'avoir été là. Baptiste, longue vie à l'appli Decathlon sur Vision Pro. Et puis la prochaine fois que tu vas à Londres, on vient avec toi. Hein.
Ok.
Maintenant que c'est officiel. Maintenant qu'on peut le dire. Salut Élie, merci aussi d'avoir été au rendez-vous.
Avec plaisir.
On pense aux absents du jour, Gilles Dounès, une grosse bise, et François Le Truédic, toujours en vadrouille. On vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 172 d'iWeek, la semaine Apple. D'ici là, ne ratez rien, abonnez-vous à iWeek Express, notre podcast imprévisible, sauf aujourd'hui où on sait qu'on va en sortir un à cause des résultats trimestriels. Vous avez aussi évidemment la page iWeek sur Patreon, patreon.com/iWeek, pour rejoindre la communauté et nous soutenir. Et puis la semaine prochaine, on l'espère, le retour du bonus hebdo avec le premier bilan de la sortie du Vision Pro, évidemment. Alors ne ratez pas l'épisode de la semaine prochaine. Salut à tous et à très vite. Bye bye.
Ciao.
Bonsoir.